écoutez Radio J, il est 11h.
Bonjour à tous et à la une de l'actualité ce matin, Itamar Ben-Gvir se rend sur le Mont du Temple à l'occasion de Tisha B'Av, le ministre de la Sécurité nationale. Visite donc le site le jour du jeune juif commémorant la destruction des deux temples hier soir. Ce sont des milliers de personnes qui se sont retrouvées devant le Kotel pour commémorer la destruction des temples juifs. Le Hamas publie une nouvelle vidéo de propagande, cette fois-ci celle d'Eviatar David. La famille du jeune homme en a autorisé 40 secondes de diffusion. Eviatar y est squelettique, il ne mange pas pendant plusieurs jours d'affilée et semble creuser un trou dans un tunnel. Il dit probablement sous la dictée du Hamas qu'il craint que ce soit sa propre tombe, tant il sent qu'il est en train de se diriger vers la mort. Des rassemblements ont lieu simultanément au carrefour, dans les villes et villages de tout le pays, et hier soir, ce sont des milliers de personnes qui se sont réunies place des otages à Tel Aviv. La sœur d'Eviatar, Yela David, a pris la parole à la tribune.
Le Hamas utilise Eviatar dans l'une des campagnes les plus horribles et les plus calculées qui soient. Il l'affame délibérément, utilise systématiquement ses souffrances atroces comme un outil pervers pour leur propagande dépravée. C'est assez, on en a assez. Mon cher frère Eviatar, maman, papa et moi t'aimons tellement. Et nous pleurons parce que tu nous manques tant. Maman est brisée, elle ne travaille plus. Papa entend ta voix dans la nuit et ne peut pas dormir. Mais Ellie et moi essayons de prendre soin d'eux autant que possible.
La sœur d'Eviatar David, hier soir, place des otages. Eviatar est aux mains du Hamas depuis maintenant 667 jours. Et selon les services israéliens, le Hamas et ses hommes ont bien de quoi se nourrir et affament volontairement les otages. Hier soir sur X, le ministre français des Affaires étrangères a condamné les vidéos de propagande du Hamas. Des images ignobles et insupportables, a écrit Jean-Noël Barrot. Le premier ministre Netanyahou et le président de l'État d'Israël se sont entretenus avec la famille d'Eviatar David. Le cœur de la nation brûle d'inquiétude et de douleur, écrit le bureau du président Herzog dans son communiqué. C'est dans ce contexte que l'administration Trump change de stratégie dans les négociations pour libérer les otages. Selon l'envoyé spécial américain pour le Proche-Orient, les discussions doivent être centrées sur le tout ou rien, c'est-à-dire le retour de tous les otages en une seule fois, et donc plus par phase, avec la fin totale de la guerre dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a dit Steve Witkoff aux familles d'otages à Tel Aviv. Il a affirmé que c'est le président Trump lui-même qui a souhaité ces rencontres pour entendre les doléances des familles. Sur le terrain, le commandant adjoint du bataillon Cheikh Radouane du Hamas éliminé par Tsahal. L'opération a eu lieu la semaine dernière et ces deux derniers jours, Tsahal a frappé plus de 130 cibles terroristes dans toute la bande de Gaza. Actuellement, 4 divisions terrestres de l'armée israélienne y sont déployées. Au chapitre humanitaire, des avions en provenance de Jordanie, des Émirats, d'Égypte, d'Allemagne et de France ont largué 90 colis d'aide humanitaire. Ces opérations ont lieu dans le nord et le sud de la bande de Gaza. Elles ont eu lieu au cours de ces dernières heures. Les colis contiennent de la nourriture. 220 camions chargés de vivres passent aussi chaque jour la frontière selon l'Allemagne. Même si Berlin estime que cela reste insuffisant pour atténuer une situation d'urgence, le gouvernement allemand dénonce aussi le Hamas qui fait barrage à la livraison de ces aides à la population gazaoui. Un juif new-yorkais de 70 ans fait partie des 4 citoyens américains otages de l'Iran. C'est ce que rapporte le New York Times. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, il est propriétaire d'une bijouterie et est interrogé à propos d'un voyage en Israël. Ces 4 Américains se sont tous rendus en Iran pour visiter des proches. Les familles ont demandé à leurs proches de garder l'anonymat, craignant une aggravation de la situation de ces otages. La guerre en Ukraine, Kiev a attaqué hier des raffineries et des entreprises du complexe militaro-industriel russe, ainsi que des sites de stockage et de lancement de drones iraniens, ceux de type Shahed, utilisés par la Russie pour attaquer l'Ukraine. Pour ce qui concerne l'Europe, l'ancien ambassadeur de France en Russie évoque la stratégie de Moscou au micro de LCI. Pierre Lévy.
La Russie n'attaquera pas forcément au sens militaire du terme Elle pourra tester l'alliance peut-être avec des opérations sous faux drapeau. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de façons sur un mode hybride d'intervenir et d'affaiblir les pays européens, de fausser des élections nationales, d'utiliser certains États membres, je pense en particulier la Hongrie ou la Slovaquie, à son bénéfice. Donc clairement, on est dans une confrontation de longue haleine.
Pierre Lévy, ancien ambassadeur de France en Russie.
Satmag, l'actu des écrans.
Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver. C'est Serge Surpin qui vous propose, comme chaque semaine, ce Satmag Hebdo. Toute l'actualité des médias, toute l'actualité de la communication, toute l'actualité des écrans. Quand je vous dis toute l'actualité, c'est presque vrai. En saison, oui. Mais en cette période estivale, Satmag fait une large pause. Et du coup, je vous propose un best-of maison, le meilleur des chroniques diffusées cette année. Je vais essayer de faire attention de ne pas vous resservir des sujets trop périmés. Mais bon, ne soyez pas trop surpris si certains thèmes ont pris un petit coup de vieux. Parce que oui, le temps passe vite, le temps médiatique encore plus rapidement. Ce qui est vrai un jour peut être totalement dépassé la semaine suivante. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne écoute de ce Satmag Hebdo version estivale. Et c'est reparti pour les rediffs.
Satmag, l'actu des médias.
Comme d'habitude dans Satmag Hebdo, beaucoup de musique. Et là, pour cette rentrée, on va écouter essentiellement des musiques qui vous ont été proposées pour les cérémonies d'ouverture et de clôture de ces Jeux olympiques et parasolympiques. On va commencer avec un titre, je crois, qui aura frappé tout le monde, qui aura emballé tout le monde, une grande découverte. My Ability, Lucky Love. C'était, je vous le rappelle, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux parasolympiques, donc de Paris 2024.
Do I cry as you do? Do I kiss as you do? Do I love as you do? Sorry, baby.
Découverte pendant la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Paralympiques. Lucky Love, My Ability.
Satmag, l'actu des écrans.
Avant d'étudier l'actualité des médias pour cet été 2024, on va revenir à une de nos traditions dans ce programme Satmag, en se rappelant de ce qui s'est passé à la télévision il y a quelques années, il y a bien longtemps, avec l'histoire donc de la télévision racontée par notre ami Christian Dauphin.
Bonjour. Le générique du journal de 13h de TF1, lancé le 6 janvier 1975, va être le petit jingle de cette chronique qui va vous replonger dans votre jeunesse ou votre enfance à travers
la formidable aventure de la télé.
Grâce à de célèbres illustrations sonores, je vais vous raconter l'âge des pionniers et les créateurs fous qui ont déjà tout inventé de notre petit écran. Savez-vous par exemple que le 9 décembre 1878, dans un almanach américain consacré à cette année, le dessin du français Georges Maurier dévoile une bien curieuse invention. Dans leur salon, un couple est en train de suivre sur leur écran plat géant, de 2 mètres de large, la retransmission en direct au format 16/9 d'une scène de campagne. Munis de microphones, ils dialoguent avec une correspondante qui se trouve dans le même site champêtre. L'écran plat mural, les images panoramiques, la liaison vidéophonique de type Skype ou la télévision par onde Wi-Fi sont autant d'inventions déjà préfigurées par le jeune Thomas Edison et quelques autres inventeurs de cette épique époque. Plus proche de nous, vous souvenez-vous de ce générique, désormais un peu ringard, composé par Jean-Claude Pelletier, à qui l'on doit la musique d'une douzaine de téléfilms des années 1960 et 1970. Le 15 septembre 1973, alors que les téléspectateurs français n'ont accès qu'à 3 chaînes, la première, qui ne s'appelle pas encore TF1 et qui est en noir et blanc, propose grâce à un certain Guy Lux un concept très original et surtout interactif. L'émission La Une est à vous, qui sera baptisée ensuite Samedi est à vous, consiste à permettre aux téléspectateurs de composer son après-midi du samedi avec des séries ponctuées de variété et d'humour. Grâce au célèbre numéro de téléphone SVP, le public compose sa programmation. Parmi les séries de l'époque, il peut choisir entre Mission Impossible, Amicalement Vôtre, Chapeau Melon et Bottes de Cuir, Les Envahisseurs, Au-delà du Réel, Vidoc, Cosmos 1999 ou encore... Mais écoutez plutôt. Signé par Richard Markowitz, qui a également composé les génériques de dizaines de séries parmi lesquelles Hawaii Police d'État ou encore Les Envahisseurs, vous aurez reconnu les Mystères de l'Ouest, avec les personnages de James West, Artemus Gordon ou encore le méchant docteur Miguelito Loveless. Créée 10 ans plus tôt, en 1965, cette série compte 104 épisodes, dont une première saison tournée en noir et blanc. En 1969, la chaîne CBS met un terme à la production de la série, la trouvant bien trop violente. Un argument qui nous fait désormais sourire par rapport aux séries actuelles. Dans le prochain numéro de La Formidable Aventure de la Télé, vous découvrirez des inventions surprenantes qui datent pourtant d'il y a plus d'un siècle.
Satmag, l'actu des écrans.
Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes.
chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes.
Franchement, jamais j'aurais imaginé passer du Johnny Hallyday dans ce programme Satmag. Mais là, on peut dire que ce titre Que je t'aime a été l'un des hymnes de ces Jeux Olympiques.
Satmag, l'actu des médias.
Très heureux de vous retrouver après de longues vacances. C'est donc la rentrée. Et depuis plus de 2 mois où j'ai mis cette chronique en pause, il s'en est passé des choses. Et l'année qui arrive en promet beaucoup d'autres. Évidemment, il y a l'incertitude concernant la composition du nouveau gouvernement. Il est probable, vu que j'enregistre cette chronique un peu à l'avance, au moment où vous l'écouterez, on ne sera pas encore sorti du bourbier. Dans les médias, c'est un peu pareil. On ne sait pas trop où on va. Ça tombe bien, ça va me donner des sujets de chronique pour pas mal de temps. Déjà, avec les résultats des dernières élections, on sait que 2 réformes envisagées par certains ne se feront pas, ou probablement pas. La fusion de Radio France et France Télévisions, voulue par la ministre de la Culture Rachida Dati, reculée pour pas mal de temps, certainement très longtemps. Il faudrait pour cela qu'il y ait un gouvernement qui revienne sur le sujet et il est peu probable qu'une coalition de droite, de gauche ou mélangée l'accepte. Quant à la privatisation de l'audiovisuel public envisagée par l'extrême droite, on en reparlera éventuellement au moment des prochaines élections présidentielles, pas avant. Évidemment, il y a un autre sujet médiatique encore plus brûlant, la décision de l'ARCOM de ne pas renouveler l'autorisation de diffusion sur la TNT, les chaînes C8 et CNews. Je vous dis pas le nombre de fois où on m'a demandé, en tant que quelqu'un qui connaît bien l'univers des médias, ce que j'en pensais et ce qui va se passer. Surtout pour C8 d'ailleurs, peu pour Énergie 12, confirmant ainsi le peu d'intérêt et le peu d'audience que génère cette chaîne. Et donc C8, la question, vont-ils s'arrêter ou pas? Cyril Hanouna sera-t-il encore sur C8 à la rentrée? Déjà, on a la réponse concernant Cyril Hanouna, car la chaîne a dit qu'il allait être présent tous les jours, ou presque. On se demande d'ailleurs comment il va avoir le temps de faire son émission sur Europe, là aussi, tous les après-midi. Si au moins une chose qu'on ne peut pas l'accuser, c'est d'être un feignant. Mais qu'en sera-t-il le 28 février prochain, quand la chaîne devra quitter la TNT? Certains voient Hanouna migrer vers Canal+. À mon avis, c'est peu probable. Je m'en expliquerai là-dessus dans une prochaine chronique. Mais je peux déjà vous dire que je pense tout simplement que C8 ne sera pas fermé. Autre sujet très médiatisé en cette rentrée, le fait que le bouquet d'Azone ait été choisi par les instances du football pour diffuser la Ligue 1. Ça se résume à « ça coûte trop cher ». Ou bien qu'il y a quelques années, Canal+, tout seul, demandait plus pour voir ces mêmes matchs. Aux premières estimations, la première journée, on estime qu'il y a eu plus d'un million de foyers qui ont choisi de se tourner vers différentes formes illégales pour voir les matchs. Mais rappelons, ce que beaucoup oublient de dire, que pirater, c'est interdit. Et en plus, c'est très souvent risqué, sans oublier que ça alimente les réseaux mafieux. Déjà donc, 3 sujets qu'il me faudra traiter dans les prochaines chroniques. Sans oublier l'avenir de la radio. Au fait, vous avez profité des nouveaux émetteurs DAB+, qui ont été allumés. Vous savez, cette fameuse radio numérique terrestre, qui a mis tant de temps à se déployer. Elle devrait remplacer dans quelques années la FM. Pour cela, il faudrait que la radio actuelle tienne le coup. Le coût financier, c'est pas évident. Plusieurs radios ont d'ores et déjà décidé de réduire la voilure et fermer certains émetteurs DAB. Pas facile la radio, hein. Elle est concurrencée par les plateformes et la publicité est en baisse. En tout cas, ça va, je m'inquiète pas. J'aurai pas mal de sujets à vous proposer pour cette rentrée 2024-2025.
Satmag, l'actu des médias.
Nu. Est-ce qu'il y aurait des guerres si on était resté tout nu? Non. Ou cacher un revolver quand on est tout nu? sais où vous pensez, mais c'est pas une bonne idée. Ouais, plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Oui, qu'on soit slim, qu'on soit gros, on est tout simplement tout nu. Oui, vivons comme on est né nu, vivons comme on est né nu. Simplement tout nu, tout simplement tout nu, comme le sont les animaux qui n'en font jamais trop. Ils voient qu'on ressemble trop à des singes sous des manteaux. Si on était resté tout nu, non, on est tous sœurs et frères quand on est tout nu.
Aussi aura frappé tous les téléspectateurs en France et dans le monde, en tout cas pour toutes les chaînes qui ont diffusé sa chanson, parce qu'il y en a certaines qui l'ont censurée. Philippe Catherine, nu, il était vraiment nu, en tout cas sur France Inter, mais pas vraiment pour les Jeux Olympiques, il y avait un cache-sexe. Oui, si vous regardez bien, non, enfin maintenant.
7 Mag, l'actu des médias.
Vous aimez regarder le football à la télévision ? Vous faites donc probablement partie de ceux qui pestent contre le montant qu'il faut payer pour regarder les matchs de Ligue 1 diffusés sur la plateforme DAZN. Prix minimum pour accéder à un match par journée, 14,99€. Mais on n'a pas le choix. 29,99€ par mois pour avoir le choix parmi 8 matchs. Mais à ce prix-là, c'est avec un engagement d'un an. Autrement dit, on vous impose de payer 12 mois alors que la compétition ne se déroule que sur 10 mois. Si vous ne désirez pas vous engager, c'est 39,99€. C'est pas tout. J'ai bien dit 8 matchs sur DAZN, alors que la compétition en compte 9 par semaine. Pour le dernier match, il faut s'abonner à un autre bouquet, BeIN Sports, et dépenser en plus 15€ par mois. D'où l'impression pour les fans d'être pris pour des pigeons. Et je pèse mes mots. Seul gagnant de l'histoire, Canal+. La chaîne avait refusé de rentrer dans la danse. Pas question d'oublier l'affront des années précédentes où la Ligue française de football lui avait préféré Mediapro, qui promettait monts et merveilles, dépenser plus d'un milliard par an. Promesse non tenue. Et cerise sur le gâteau de l'humiliation, la Ligue de football avait soldé les droits à Amazon. Pourquoi Canal+ serait le seul gagnant alors qu'il n'a pas obtenu les droits ? Son bouquet va proposer les options DAZN et beIN Sports, dont il prendra une commission. Le beurre sans dépenser l'argent du beurre. Bien joué. Ça fait des années que la Ligue française veut que les droits télévisés du championnat lui rapportent plus. Il faut dire que les revenus du football dans d'autres pays sont encore plus élevés. Mais le niveau du football proposé est largement supérieur. Ils ont des stars que les clubs français n'ont plus les moyens de se payer. Même Mbappé est parti ailleurs. Mais il ne faut pas croire qu'avant, c'était plus simple et moins cher pour regarder le football. Même du temps que Canal+ en avait l'exclusivité de la Ligue 1, c'était cher et en option. Ainsi, avec 100% de la Ligue 1, Canal+ était vendu en 2005 46€. Il y a 20 ans, en euros constants, ça fait beaucoup plus. Après, il a fallu s'abonner à plus d'un bouquet pour voir la Ligue 1, que ce soit avec TPS, OCS, Mediapro ou beIN Sports. Mais pour en revenir à 2005, avec 46€, on avait tout. Le sport, et pas seulement le football, et le cinéma. Aujourd'hui, à 45€, on n'a que du sport, un peu de sport. Sans compter qu'on est aussi abonné à des plateformes de vidéos à la demande comme Netflix, Prime, Disney, Max et autres. Le tout additionné, on arrive à des sommes conséquentes. Donc l'offre d'Azon plus BeIN Sports a du mal à passer. Une campagne de boycott a même été lancée sur les réseaux sociaux. Ça, c'est dans le meilleur des cas, mais beaucoup s'orientent vers le piratage. Alors qu'évidemment, le piratage, c'est interdit. Mais soyons réalistes, il a toujours existé, et cela depuis le lancement de Canal+. La différence, c'est qu'à l'époque, le risque principal pour le fraudeur était de payer pour un truc qui ne fonctionnait pas très longtemps. Généralement d'ailleurs, le fraudeur payait au final plus que s'il s'était abonné légalement. Mais le fraudeur payait une fois, généralement un vendeur qu'il connaissait plus ou moins. Maintenant, c'est différent. Le fraudeur passe par des abonnements illégaux, alternatifs, vendus via Internet. Et les programmes arrivent comme de simples bouquets. Mais les risques d'arnaque sont très élevés. Vous risquez de payer pour un service qui, là encore, ne fonctionne pas ou pas très bien. Le risque reste aussi élevé pour le paiement, même si vous passez par des plateformes comme PayPal. On ne va pas rentrer dans les détails, mais certains ont payé beaucoup plus que prévu. En plus, pirater, c'est accepter de financer la mafia, qui généralement contrôle ce marché. Mais il y a un plus gros risque pour la Ligue de football. C'est le piratage gratuit, qui passe par les réseaux sociaux, dont plusieurs pages ou boucles diffuseraient les matchs gratuitement. Par exemple, sur Telegram. Ça vous dit quelque chose, entre parenthèses, avec le patron qui vient de se faire arrêter? Cerise sur le gâteau. Il y a ceux qui regardent les matchs diffusés gratuitement sur des chaînes gratuites étrangères, via des VPN. Au total, on estime que le premier match, Le Havre-PSG, a été regardé illégalement par environ 1 million de foyers. Alors maintenant, la question, DAZN va-t-il réussir là où Mediapro s'est planté? Le bouquet table sur 1 500 000 abonnés. 1 500 000 abonnés? Pour beaucoup d'analystes, c'est un chiffre impossible à atteindre, vu le prix qu'il faut payer. À force de pousser le bouchon trop loin, la conséquence risque d'être que le public se détourne tout simplement de ce sport et qu'il passe à autre chose. Par exemple, basket, avec des stars beaucoup plus vendeuses.
Satmag, l'actu des écrans.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir. S'écrier ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Sous l'orage, je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Zao de Sagazan, elle aussi une découverte de cette année 2024. On l'a vu partout, hein, aux Victoires de la Musique et donc là aux Jeux Olympiques. Je vous ai pas proposé la chanson qu'elle a chantée aux Jeux Olympiques, mais c'est pas toujours possible parce que on n'a pas à notre disposition les versions chantées sans les commentaires des journalistes derrière. C'est pas évident à vous proposer ça. Donc là je vous propose cette très belle version de la Symphonie des éclairs, Zao de Sagazan.
Satmag, l'actu des médias.
Bon, allons-y. Il me faut parler ici aujourd'hui du sujet qui fait beaucoup parler en cette rentrée. En fait, depuis que l'Arcom a pris la décision de ne pas renouveler l'autorisation d'émettre sur la TNT, des chaînes C8 et Énergie 12, c'était une grosse surprise. On pensait pas que l'Arcom allait s'affirmer de cette manière. Perso, je vous avais dit dans cette chronique que je pensais que l'Arcom allait supprimer les autorisations d'émettre des chaînes payantes. Oui, mais toutes ces chaînes dépendent plus ou moins du groupe Canal. Et l'Arcom a décidé de frapper très fort, en retirant donc l'autorisation d'émettre sur la TNT de C8. Et enlever les chaînes payantes un Canal Plus aurait semblé être un acharnement. Et donc l'Arcom a décidé de retirer l'autorisation d'émettre sur la TNT de C8 et surprise, pas à CNews, pourtant tout autant controversé. D'où la question, pourquoi prendre cette décision? C'est simple à comprendre. L'Arcom a donc le droit de retirer une autorisation à partir du moment où elle estime que ces chaînes ne respectent pas leur charte d'autorisation ou pire, ne respectent pas la loi. Et c'est là qu'intervient le choix de l'Arcom. Retirer l'autorisation de CNews aurait été difficile. La chaîne favorise le temps de parole pour un bord spécifique de l'échiquier politique. Vrai, mais selon les anciennes règles, c'est difficile à prouver. Soyez certains d'ailleurs que l'Arcom se servira de cette nouvelle autorisation d'émettre pour la chaîne d'information du groupe Bolloré pour intégrer dans ses obligations des règles plus fermes, règles qui permettront éventuellement de condamner la chaîne. Mais rappelons-le, pour l'instant, CNews a été pour l'instant peu condamné, en tout cas moins que C8. Et soyons réalistes, retirer l'autorisation d'émettre de CNews aurait été pris comme un acte de censure, que cela soit justifié ou pas. Par contre, pour C8, là, on peut prendre ce chiffre, plus de 4,5 millions d'amendes rien qu'en 2023. Donc la chaîne ne respecte pas la loi et n'a pas du tout envie de changer d'attitude. Les propos de Cyril Hanouna, quasi-patron de la chaîne, le prouvent. Donc l'Arcom est en son droit pour retirer l'autorisation d'émettre d'une chaîne multirécidiviste. Ce n'est pas une volonté de censure, pas un délit de sale gueule vis-à-vis de Cyril Hanouna, c'est la loi. Et la loi dit qu'une chaîne ne peut pas faire n'importe quoi. C'est aussi simple que cela. Maintenant la question, C8 va-t-elle fermer? Autant vous dire, je n'y crois pas. Pour rappel, s'il est vrai que les chaînes de la TNT représentent près de 90% de l'audience de la télévision, alors que près de 90% des Français regardent la télévision via l'IPTV, autrement dit, via des box internet, et ça, c'est pour deux raisons. D'une part, émettre sur la TNT coûte très cher. Parfois, c'est plus de la moitié du coût d'exploitation de la chaîne. Donc mettre de l'argent dans les programmes, c'est plus facile. Et puis, les chaînes de la TNT bénéficient d'une numérotation favorable. Ce n'est pas pour rien que LCI et France Info voudraient que les chaînes d'info soient regroupées. Quoi qu'il en soit, même sur la TNT, C8 restera accessible à près de 90% des Français. Par contre, c'est vrai, elle perdra sa numérotation favorable, le 8e canal. Mais donc, une bonne campagne de communication pour dire que désormais, C8 est sur le canal, bon, au hasard 58, ça le fait. Et la chaîne ne part pas de rien, elle a déjà près de 42 millions de personnes qui la regardent. Donc je pense que C8 continuera après le 28 février 2024. Pour ceux qui me disent que C8 perd beaucoup d'argent et ça peut être l'occasion pour Vincent Bolloré de terminer ses dérives, c'est peu probable. L'homme d'affaires se croit investi d'une mission, favoriser ses idées, coûte que coûte. À ceux qui disent que TPMP pourrait changer de chaîne, à la rigueur sur ses stars, la chaîne musicale, mais j'en doute. Quant à attirer dans les programmes en clair sur Canal+, là aussi j'y crois pas du tout. Pour l'instant, Canal+, n'a pas pris la même orientation politique que ses sœurs. Elle reste relativement neutre. Diffuser TPMP, c'est prendre le risque de voir fuir certains abonnés. C'est donc très risqué. Donc je pense tout simplement que C8 continuera à diffuser sur les box, sur Internet. D'ailleurs, Cyril Hanouna l'a laissé entendre dans différents entretiens accordés à la presse. Mais il ne faut pas que Cyril Hanouna pense qu'ainsi, il ne dépendra plus de l'Arcom. C'est faux. Oui, le problème de l'équilibre du temps de parole entre les différents courants politiques sera moins strict sur les réseaux que sur la TNT. Mais la chaîne est autant responsable de son contenu qu'une chaîne de la TNT. Et elle peut tout autant être condamnée. Maintenant, je ne peux que conclure cette chronique par « À suivre ».
Cette mag, l'actu des écrans.
J'entends des bails à trois sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas m'aider ta rêve. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis prête à gâter, dja dja. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu fais ça. En katana, baby, tu gâtes ça. Oh, dja dja, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. Tu pas ta katana, dja dja, genre. En katana, baby, tu gâtes ça.
Là aussi, j'aurais bien voulu vous passer la version des Jeux Olympiques, de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui a chanté Ayana Nakamura avec un mix, avec une chanson de Charles Aznavour. Malheureusement, c'est pas possible. Ils parlent trop, les journalistes, ils parlent trop. Donc, bah, je vous propose donc Dja Dja. C'est pas mal.
Satmag, l'actu des écrans.
Je voudrais aujourd'hui revenir sur le bilan des audiences de la télévision pour cet été. Chaque année, en cette période, France Télévisions profite de belles audiences, essentiellement grâce au sport, grâce au Tour de France, en juin et en juillet, et souvent aussi en diffusant des grandes compétitions d'athlétisme, plus au mois d'août. Mais là, en 2024, on pensait que le groupe public allait casser tous ses records en diffusant les Jeux Olympiques d'été. Et c'est donc la première fois qu'une chaîne de télévision va diffuser des Jeux Olympiques qui se déroulent sur notre territoire, en France, en tout cas pour des Jeux Olympiques d'été. Certains doutaient quand même, vu le géo-bashing que l'on a pu subir de la part de certains médias qui pensaient que rien ne serait prêt à temps, ou presque. Cela dit, ce bashing n'est pas surprenant. On se souvient de certains pays accueillant les Jeux Olympiques qui n'étaient pas vraiment prêts un mois avant la date de la cérémonie d'ouverture. Et eux, c'était la vérité. Beaucoup avaient parié qu'en France, les syndicats allaient aussi se servir des Jeux pour lancer des grèves paralysantes. Faut dire qu'en France, on a la médaille concernant les jours de grève et les manifs de tout genre. Et pourtant, non. Tout s'est à peu près bien passé. Tout a été bien organisé, semble-t-il. À tel point que beaucoup de Parisiens qui avaient fui la capitale pour ne pas subir l'événement sont partis. Je vais pas leur jeter la première pierre, car j'ai fait pareil. Il faut dire qu'une des compétitions passait devant chez moi. J'ai pourtant presque regretté de ne pas être là quand j'ai regardé cela à la télévision. Et donc, je n'ai pas été le seul devant mon poste. Alors que franchement, les Jeux Olympiques me semblaient que très peu passionnants. Première bonne surprise, la cérémonie d'ouverture des Jeux. Pourtant sous la pluie, pourtant pas trop bien réalisée. Elle a été vue par un record de téléspectateurs, plus de 22 millions. Et ça ne s'est pas arrêté. Là encore, quand on a appris que France 2 et France 3 allaient diffuser seulement les Jeux Olympiques pendant la compétition, tout le monde des médias a pris ses dirigeants pour des fous. En tout cas, pour des gens bien optimistes. Pourtant, le pari a été gagné. Qui n'a pas regardé notre nouveau champion Léon Marchand remporter toutes ses médailles? C'est un exemple parmi tant d'autres. Et la cérémonie de clôture des Jeux? À peu près la même réussite. Plus de 17 millions de téléspectateurs. On pensait que pour les Jeux Paralympiques, ça allait se calmer. Oui, c'est un peu vrai, mais pas tant que ça. Les audiences restent élevées. Plus de 10 millions de téléspectateurs pour la cérémonie d'ouverture. Et on peut remarquer que tout le monde autour de nous parle des exploits des para-athlètes. Donc, résultat, France Télévisions a pu présenter des bilans d'audience jamais vus. 32,5% toutes chaînes confondues pour juillet, 38,1% pour août. Si TF1 a quand même bien tenu le coup, en ne perdant pas trop de plumes, toutes les autres chaînes ont, elles, vu leurs audiences se plonger. Même les chaînes d'infos ont souffert. Les 4 chaînes d'infos, donc de la TNT, n'ont fait que 7% d'audience en août, soit plus d'un point de moins par rapport à la moyenne. Maintenant la question, est-ce que cela va continuer? Évidemment pas. Dès les Jeux terminés, TF1 a repris ses couleurs habituelles et ses journaux ont repris leur domination sur ses concurrentes. En cette année, très observées aussi ont été les audiences des talk shows diffusées en access. Beaucoup ont relayé la campagne très médiatique de Cyril Hanouna, qui attaquait à tout va, l'Arcom, ses concurrents. Pour l'instant, ça ne semble pas avoir d'effet sur les audiences. C'est à vous sur France 5 domine le 19h-20h. Le Vent Quotidien est largement devant TPMP qui donne. Pour le 20h-21h, difficile de savoir exactement tant les programmes sont saucissonnés, coupés en plusieurs parties. Pour l'instant, il semble qu'au quotidien domine TPMP et très largement, c'est à vous. Tiens, au fait, du côté des 20h de TF1 et France 2 en cette rentrée, c'est l'inflation. Non, pas des audiences, mais du temps de journal. Si TF1 fait durer le sien près de 3 quarts d'heure, le 20h de France 2 ne durait environ que 30-35 minutes. Eh bien, ça change, puisque désormais, le 20h de France 2 va durer 1 heure. Oui, 1 heure. Les deux chaînes affirment qu'ainsi, elles peuvent se différencier par rapport aux chaînes d'info en proposant des reportages plus travaillés, plus longs. France 2, pour cela, a fait passer son programme « Ainsi grand soleil » sur France 3. Exactement à la même heure que Si belle la vie, du temps où la chaîne se baladait à Marseille. Donc c'était le résumé de cet été et de cette rentrée à la télévision. On peut être certain que d'autres évolutions fortes ne tarderont pas à poindre.
Cette mag, l'actu des médias.
If I can't run, I'll walk. If I can't walk, I'll crawl. I won't stop. I won't stop. I'm gonna come on stage because I'm ready. And my vocal cords will not scare me. Because I'm gonna be ready. Because they will not control my life. Because I am not brave. I am smart. And I can't wait to go back on stage and hit whatever I can hit. I will come back and have a wonderful time.
Le ciel sur nous peut s'effondrer. Et la terre de bien s'écouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me la demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons. L'éternité dans le bleu.
on peut dire que c'était pas mal quand même. Céline Dion, l'hymne à l'amour, c'était la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, Paris.
Mag, l'actu des médias.
Une info étonnante qui vient de tomber. Ce n'est pas une surprise pour les professionnels du cinéma, mais quand même. Vous savez que le film Un petit truc en plus bat tous les records. Il a été vu par plus de 10 millions de spectateurs en France. Eh bien, figurez-vous que Canal+ diffusera le film en novembre prochain, selon la fenêtre des 6 mois révolus après sa sortie en salle. Normalement, je pensais que c'était réservé ce délai des six mois, à des films ayant obtenu un résultat très médiocre. Et pourtant non. À l'occasion de l'anniversaire de la chaîne, Gérard Brice Viret a annoncé, en marge de la présentation de la saison sport du groupe, que Canal+ célébrera ses 40 ans le 4 novembre 2024. Ouh là là, ça me rappelle les souvenirs donc. Ce film donc, un petit truc en plus. Nous préparons aussi des programmes spéciaux avec Antoine Decaune. Pour rappel donc, la comédie phénomène Un petit truc en plus, sortie en salle le 1er mai, a fait son entrée dans le top 10 des plus gros succès français de tous les temps, en cumulant 10 320 000 spectateurs. 40 ans de Canal+. Est-ce que les distributeurs qui étaient là le jour du lancement de la chaîne, le 4 novembre 1984, seront invités? Vous pensez? Je pense pas. En fait, je vous l'ai pas dit, mais c'est quand même important. Un petit truc en plus, c'est un film d'Artus, et c'est avec Artus, Guillaume Cornillac, Alice Belaïdi, et évidemment, toute une banque d'acteurs exceptionnels.
Allez, on se casse! Allez!
Merde, y a de la bagnole.
Je t'ai garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi?
Bon, on fait quoi, du coup? Les comme eux, là.
Alors,
on va passer un été super ensemble, et je suis hyper contente.
Très très proche, hein.
Frères et sœurs, jour et nuit.
Allez, va.
Yo, putain,
qu'est-ce que tu fous là, toi?
Tu n'es pas handicapé?
Si, tu veux pas handicapé, moi.
Bah, voudrais pas.
T'as raison, je suis pas handicapé. Et tu dis rien à personne, hein?
Je dis rien à personne. À pas Ludovic.
C'est qui, Ludovic?
C'est ma petite bite. Qui fait en prison dans les douches.
Pardon?
Je sais que le passé, c'est passé, mais il y a qu'un autre, je peux me confier.
Remonte.
Pourquoi ils nous regardent, les gens?
Oh, les amis.
Chérie, t'es trop séduisant.
Oh là là, oh putain, Marie.
C'est parti droit dans sa gueule.
C'est pas grave, ça lui arrive tout le temps.
Satmag, l'actu des écrans.
Là, c'était donc la bande originale du film Un petit truc en plus, le film d'Artus. Maintenant, évidemment, vous l'avez reconnu, Born to be Alive, Patrick Hernandez. Un titre qui est sorti dans les années 80. Ça reste un titre mythique et qu'on a entendu beaucoup pendant les cérémonies d'ouverture, de fermeture, je ne sais plus, des Jeux Olympiques.
We were born to be alive.
vous aimez le principe de l'Uchronie. Vous savez, c'est quand dans un livre, une série ou un film, on imagine le monde un peu différent ou simplement ce qui serait arrivé dans notre vie si un petit détail avait tout changé. Par exemple, dans le film Pile ou Face, l'héroïne rate ou pas son métro. Ou alors, Il était temps, où une autre héroïne fait tomber ou pas son passeport sous son lit avant de partir en voyage. Son avenir n'est plus le même. Plus généralement, on a aussi ces histoires où les États-Unis perdent la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est Philip K. Dick qui a imaginé ça. Cela dit, on peut aussi imaginer que les États-Unis ne rentrent pas dans la guerre, toujours dans les années 40. Et pire, les nazis qui auraient pris le pouvoir. Il y a eu pas mal de livres à ce sujet, livres, séries ou films, comme par exemple Complot contre l'Amérique de Philip Roth. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela ? Eh bien, j'y pensais ces derniers jours en imaginant si CNews n'avait pas diffusé une émission religieuse qui a comparé le nombre d'interruptions volontaires de grossesse avec le nombre de morts du cancer et du tabac. Est-ce que cela aurait changé le vote des sénateurs qui ont décidé, en fin février, de voter exactement le même texte que les députés en faveur de l'inscription de l'IVG dans la Constitution ? On se rappelle qu'après avoir voté pour, le Sénat, ou plutôt son président Gérard Larcher et quelques autres sénateurs, avaient changé d'avis, estimant que le droit à l'avortement n'est pas menacé en France et que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux ou sociétaux. Alors pourquoi changer d'avis ? Certains ont estimé que c'était pour se venger du gouvernement qui se serait débrouillé pour faire voter les sénateurs la loi sur l'immigration, tout en sachant très bien que les amendements introduits par le Sénat seraient rejetés par le Conseil constitutionnel. Alors ça, c'est possible. Mais bon, l'avis de Gérard Larcher et de certains de ses amis faisait vraiment craindre un blocage et donc l'abandon de la révision de la Constitution sur le sujet de l'avortement. Et voilà donc qu'à quelques jours du vote du Sénat, CNews diffuse son programme qui démontre, par l'absurde dirait-on, que oui, certains continuent à vouloir remettre en cause le droit à l'avortement. Et là donc, les sénateurs ne pouvaient plus se cacher derrière leurs petits doigts. Or, il est vrai que certains sénateurs ont dit en privé que leur famille, leurs enfants, filles ou garçons, leur avaient fait comprendre qu'ils leur en voudraient beaucoup s'ils ne votaient pas ce texte. Mais le programme de CNews, pourtant peu regardé, a certainement eu une influence sur le vote des sénateurs. Que les dirigeants de CNews, mais aussi ses animateurs, se soient tout de suite rendus compte de la bévue, qu'ils aient immédiatement montré leur désaccord avec ce qui a été dit sur l'antenne, la faute était faite et relevée un peu partout. Comme quoi, ce que diffuse une chaîne d'information présente sur la TNT a de l'importance. Plus que ce qui peut être publié dans un journal, avec un article qui finalement sera certainement peu lu. Mais ce qui passe à la télé, ce n'est pas rien. Donc, que se serait-il passé sans cette émission de CNews ? Pas certain que la modification de la Constitution aurait pu être votée par le Congrès. À ce sujet d'ailleurs, on voit l'influence des propriétaires de médias sur certaines rédactions. Plusieurs journaux ont pu titrer logiquement en première page que le vote a été historique. Pour d'autres, ça l'a été, mais en plus petit sur la une. Enfin, d'autres journaux n'en ont pas parlé en une, comme le Parisien aujourd'hui en France ou les Échos, appartenant tous les deux à LVMH et donc la famille Bernard Arnault. Par contre, le titre, le mot « historique » est bien apparu, mais à la page 4 du Parisien. En page 4 aussi pour les Échos, un hasard certainement, mais il faut se rappeler que les directions des deux journaux se plaignent de l'interventionnisme de leur patron. Certains vont me dire « bah c'est normal, le patron a tous les droits ». Non, il y a des règles déontologiques qui imposent des protections de l'équipe de journalistes. Protections qui semblent de moins en moins respectées dans certains médias. Suivez mon regard.
Satmag, l'actu des médias.
Yeah. crackhead heart of gold.
L'actu des écrans.
Et bien voilà, c'est la fin de ce SatMag Hebdo, la sélection des meilleures chroniques de la saison. Oui, la saison, car je vous le rappelle, jusqu'à la rentrée prochaine, je vous propose la rediffusion de ce SatMag Hebdo que je vous ai proposé tout au long de cette saison. J'espère que les sujets n'ont pas été trop dépassés et qu'ils sont toujours pertinents, quoique même dépassés, ces sujets nous remettent dans des conditions de l'époque où on ne savait pas ce qui allait se passer. Maintenant, on sait, ou plutôt on croit savoir. Et je vous rappelle mon principe cardinal. Tout ce que vous croyez savoir a de grandes chances de ne pas être vrai. Tout ce que vous ne savez pas pourrait arriver. Oui, c'est comme ça. Enfin bon, et inversement. Bon, allez, je vous laisse. Passez de bons moments à l'écoute de votre radio préférée.